de Françoise Mangeot, La tortue et le cormoran. Œuvre publiée sous licence art libre. Image de couverture, Christiane Jehan. En lecture libre sur atramenta.net. Enregistré par Christiane Jehan pour audiocité.net. La tortue et le cormoran. Des photos originales, un étrange rocher tout près d'une célèbre sculpture, publié par une amie sur un réseau social bien connu, semblait appeler une histoire. Pourquoi pas ? Le titre était évidemment tout trouvé, mais l'histoire elle-même. Un poème ? Une fable ? Je versifie parfois, mais en ce moment, avec le soleil de printemps qui s'installe, je n'ai guère envie de m'astreindre aux innombrables contraintes de la poésie et pas plus à celle de la fable, avec morale et tout. Alors, une légende. Pourquoi pas ? Fabriquer de toutes pièces une légende ancestrale, ça a de l'allure, non ? Il était une fois, dans le port de Concarneau, deux jolis amoureux. J'entends déjà des ricanements. Ah, ça c'est original. Tant pis, que les ricaneurs ricanent, que les incrédules restent sceptiques. Il était une fois, dans le port de Concarneau, deux jolis amoureux. Katel Karadec, fine et vive, avait bien du mal à dompter sous sa coiffe une crinière mousseuse, d'un blond de blé en juillet. Ses yeux rieurs étaient bleus, comme les jacinthes sauvages. Gurvan le Mao, un grand gars solide, au franc regard noir, était aussi brun de poils et de peau que Katel était blonde. Mais les voir marcher côte à côte sur le front de mer ou dans les rues de la ville close était un plaisir tant ils étaient beaux et accordés. Ils n'attendaient pour se marier que de pouvoir disposer d'un peu d'argent. Si la saison de pêche était bonne, Gurvan le pêcheur, et Katel, la sardinière, pourrait alors envisager de monter leur ménage. C'était sans compter avec la Groar de l'île du Loc. Quoi encore ? Qui proteste ? Comment ça ? Vous ne connaissez pas la Groar du Loc ? Ah, les traditions se perdent. Vous avez mal écouté vos grands-mères. Bon, je vais expliquer, mais ne vous plaignez pas si cela rallonge l'histoire. Les Groar, donc, comme chacun devrait le savoir, sont d'horribles magiciennes bretonnes qui se changent, selon leurs caprices, en princesses merveilleuses, ou en grenouilles, ou tout autre avatar, et pire, qui transforment aussi, à leur gré, n'importe qui en n'importe quoi. Celle du Loc est bien connue pour son goût pour les beaux et jeunes hommes. Elle les attire sous une forme séduisante, leur promet gloire et fortune, puis, son caprice terminé, en fait des gorets ou des maquereaux, et les mange, rôtis ou grillés. Quelquefois, bien rarement, et seulement grâce à une intervention divine ou magique, un brave saint de passage, une gentille fée des grèves, un korrigan farceur. La Groar perd la partie et le chanceux Godeluro se retrouve bien en vie, ce qui est l'essentiel, et même parfois nanti pour le reste de ses jours. Justement, à l'époque où commence cette histoire, la Groar de l'île du Loc sortait tout juste d'une pénible affaire avec un certain Job du pays pagan, lequel avait reçu, grâce à la piété de Samy, l'aide de saint Paul ou de saint Renan, je ne sais plus. La Groar y avait perdu quelques émeraudes de grand prix, mais surtout la face. Elle avait même failli être mangée par son propre chat. C'est dire si elle avait grand besoin de restaurer sa gloriole à ses propres yeux. Donc, un beau vendredi matin de printemps, elle s'envola du Loc, superbe goéland argenté, et atterrit, gracieuse jeune bourgeoise, au pied du phare de la Croix. Ces métamorphoses instantanées l'amusaient beaucoup. Elle s'empressa de filer vers le marché, car la proximité de la chapelle et de la Croix lui donnait de l'urticaire. Mais elle eut beau déambuler toute la matinée entre les étals, aucun jeune homme à son goût n'apparut. Désappointée, elle rêva un instant de déclencher un énorme orage, ou même une petite tornade, histoire d'animer un peu le paisible marché. Mais, comme il faisait vraiment un temps délicieux, sa bonne humeur l'emporta. Farceuse, elle grappilla, de ci de là, de quoi faire son déjeuner, sans payer, bien entendu. Il fallait voir la tête des braves marchands, voyant s'envoler dans les airs, qui, un beau morceau de lard rôti, qui une barquette de fraises ou encore une part de Queen dégoulinant de beurre. En un éclair, le larcin disparaissait derrière les jupes froufroutantes d'une jeune et belle femme aux atours cossus. Les commerçants pensaient avoir rêvé, mais tout de même, la place sur leur étal restait vide et leur esprit troublé. Ils auraient, peut-être, mieux compris s'ils avaient regardé dans le panier de la jolie bourgeoise qui s'éloignait en riant sous cape. Lestée de ses provisions mal acquises, la Groire alla s'asseoir sur quelques rochers à la plage des Dames, se restaura, s'octroya une petite sieste au soleil déjà chaud, s'amusa un moment à faire voler bien haut les jupons des filles, à envoyer du sable dans les yeux des flâneurs, à accrocher des chevelures d'algues aux lignes des vieux qui taquinaient le bar, puis elle partit vers le port poursuivre sa quête d'aventure. Parmi les marins qui débarquaient leur pêche du jour, elle repéra vite la haute silhouette de Gurvan. Elle tomba immédiatement amoureuse du garçon. Mais elle eut beau se pavaner et faire mille grâces, autant que lui permettait l'activité du port, Gurvan semblait ne même pas la voir. Il fallait qu'elle trouve le moyen de le séduire, de se l'approprier. À partir de cet instant, tantôt moineau, tantôt goéland, tantôt araignée, mouche ou autre animal familier, elle traqua sa proie jusqu'à la fin de l'après-midi. Mais la patience n'étant pas son fort, elle passa bientôt à l'attaque. Sous sa forme préférée de jeune et belle personne, manifestement fortunée, elle assiégea le garçon, lui faisant maint compliment sur sa bonne mine et sa belle santé. Gurvan en éprouva bien un peu de satisfaction, mais il fut aussi fort gêné. Il ne savait guère trop comment se débarrasser de cette femme qui lui offrait, sans barguigner, moins d'une heure après l'avoir abordée, une fortune en échange de ses faveurs, du mariage même, s'il préférait. Si l'idée d'accepter ce marché pour se constituer un pécule lui vint, même fugitivement, je ne saurais le dire, mais on ne pourrait guère lui en tenir rigueur. En ce temps-là, les petites gens avaient bien du mal à vivre. Il y avait bien plus de pauvres que de nantis. Mais Gurvan était honnête et fidèle, et son amour pour Catel l'aida puissamment à repousser les offres licencieuses de celles qu'il prenait pour une riche bourgeoise ou une aristocrate, en mal d'encanaillement. À bout d'arguments, celle-ci le laissa en lui demandant de réfléchir encore. Il crut qu'elle abandonnait la partie. C'était mal la connaître. À la brune, comme d'habitude, quand il ne partait pas en pêche, il alla rejoindre Catel sur le front de mer. La soirée était douce, l'océan calme et luisant des derniers rayons du soleil. Les promeneurs se faisaient rares et les amoureux en profitèrent pour descendre sur la plage et se rapprocher un peu l'un de l'autre. C'est alors que la Groire se matérialisa face à eux. L'horrible vieille sorcière qu'elle est leur apparut sous son vrai jour, loqueteuse et puante, bavant d'ignobles injures. Folle de rage, elle enjoignit à Gurvan d'abandonner Catel et de la suivre illico sur son île, faute de quoi elle les transformerait tous deux en animaux de pierre. Ils seraient condamnés à rester éternellement sur cette plage. Ricanante, elle ajouta qu'ils ne seraient ni les premiers, ni les seuls, que les côtes bretonnes étaient parsemées çà et là de rochers qui attestaient du savoir-faire des Groares en la matière. Catel pleurait, mais suppliait son amoureux de ne pas se soucier d'elle, d'obéir pour peut-être sauver au moins sa vie. Pour toute réponse, il la serra contre lui, la bouche dans ses cheveux. Tout alla alors très vite. La Groare leva les bras en l'air, puis les tendit vers les amoureux. Gurvan sentit Catel quitter le dérisoire abri de ses bras et, éperdu, ne vit plus à ses pieds qu'un rocher dont la forme évoquait étrangement une tortue. Mais cette tortue pleurait. Quant à lui, il se sentait étrangement engourdi. La Groare parla de son horrible voix de crécelle. « Pour la dernière fois, Gurvan, veux-tu me suivre dans mon île et devenir mon amant? Réfléchis bien. Tu as déjà perdu ta bien-aimée. Veux-tu aussi perdre la vie ?» Gurvan fit un grand effort, se pencha. D'une main infiniment tendre, il essuya les larmes qui perlaient aux yeux de la tortue de pierre et porta ses doigts à ses lèvres. La Groare ricana méchamment. « Non, dit le jeune homme, tu peux faire de moi ce que tu veux, vieille sorcière. Tu n'en seras que plus laide et puante. » À nouveau, l'horrible créature tendit les bras vers lui. « Tant pis pour toi, tu vas mourir. » À l'instant même, un beau cormoran, tout noir et les ailes déployées, se matérialisa. Mais la Groare en resta bouche bée, car loin d'être de pierre, le cormoran était bien vivant. Un ricanement goguenard se fit entendre, venant du parapet de pierre qui surplombait la plage. La Groare eut un hoquet rageur. « Encore toi, Yann des Grèves » s'exclama-t-elle. « Oui, dit une voix rocailleuse, encore moi. Je n'ai pas tes pouvoirs, mais j'en ai un peu quand même. D'habitude, je ne m'occupe pas de tes méfaits. Mais là, tu m'as énervé. Tu ne pouvais pas laisser tranquille ces gentils amoureux-là? Des beaux gars, ça ne manque pas dans ce pays. Dommage, je suis arrivé trop tard pour sauver la petite de tes griffes. Mais celui-là va continuer à vivre sous sa nouvelle forme. Tu ne pourras plus rien contre lui. C'est pas l'idéal, désolé, mon garçon, mais je ne peux pas faire mieux. » La Groare écumait de rage. Elle se savait impuissante en pareil cas. Éructant d'abominables injures, elle s'envola vers son île dans un tourbillon de sable. Yann des Grèves, le rugueux mais gentil Korrigan, s'en retourna à ses solitudes. Le cormoran mena sa vie de cormoran. Pourtant, des gens s'étonnaient parfois de voir cet oiseau de belle allure s'approcher si près de la plage. Il aimait se reposer sur un étrange rocher tourmenté qui ressemble à une tortue. Ses congénères, eux, restaient généralement un peu plus loin sur les écueils qui émergent encore à marée haute. Les années, les lustres, les siècles s'écoulaient. À la fin du XXe siècle, un artiste passa par là. Des dessinateurs, des peintres, quelques écrivains, la corniche de Concarneau en a vu des quantités, pressées ou s'attardant. Cet artiste-là, Jean Lemonnier, est sculpteur. Il ne dessine pas ses sujets, il les ébauche dans la glaise face à son modèle vivant, puis il les sculpte dans le bois, la pierre, ou il les coule dans le bronze. Jean Lemonnier aime la mer et les animaux marins, oiseaux, ours ou tortues. Alors qu'il se promenait sur la corniche, comme tant d'autres, son œil sensible s'arrêta sur la beauté d'un grand cormoran posé sur un rocher tout proche du rivage. Remarqua-t-il en contrebas la mélancolique petite tortue de pierre? C'est peu probable, tant elle est discrète. Mais quel mystérieux élan le poussa à sculpter, justement, un cormoran? Allez savoir, on ne voit bien qu'avec le cœur, dit-on. Ce beau cormoran, taillé à l'origine dans du cyprès, a mystérieusement subi, durant ses premières années, maints outrages et blessures, jusqu'à être décapité et sa tête exposée au balcon de l'hôtel de ville. Qui croyez-vous était l'auteur de ces méfaits? Des voyous malfaisants? Des iconoclastes imbéciles, comme on l'a dit? Ou la Groare? Et ne croyez pas que l'avoir remplacé par une statue de bronze aurait suffi à faire cesser ses atteintes. Je crois plutôt que Yann des Grèves est repassé par là. De cette triste histoire, il reste néanmoins une certitude. L'amour, le véritable amour, n'est jamais totalement perdu. Il en subsiste toujours quelque chose. Ah, j'allais oublier. Si vous êtes un homme, encore jeune et de belle allure, faites attention. Si, lors de vos promenades sur la corniche, vous faites la rencontre d'une belle et accorte inconnue qui vous invite très rapidement à visiter son château, là-bas, avec un geste, vers le large, fuyez sans attendre. Ici se termine « La tortue et le cormoran » de Françoise Mangeot. Illustration musicale de Pascal Krieg. So far, to see. Du site musiclibre-cc.fr. Tout droit réservé.